RCF.
Cinq semaines pour aller vers Pâques, cinq semaines pour approfondir notre relation à Dieu et aller vers la résurrection du Christ. Et pour avancer vers cette fête, nous sommes accompagnés par le frère Éric Bidot, responsable national des Capucins. Bonjour.
Bonjour.
Vous faites partie de la famille des Franciscains et nous nous attardons avec vous sur ce que signifie la réconciliation au cœur de ce carême. La réconciliation qui ne vient pas sans un certain dépouillement. Par quoi passe ce dépouillement ?
Alors ce dépouillement, il est tout azimut, parce que nous sommes très encombrés. Nous sommes très encombrés à plus d'un titre. Nous sommes encombrés dans nos relations, nous sommes encombrés dans les biens, nous sommes encombrés en nous-mêmes. Et moi, il y a une image qui me parle beaucoup, qui est que, en fait, et c'est un des sens du temps du carême, mais le carême, c'est un peu pour signifier toute une vie aussi. C'est pas simplement un temps qui a un début, une fin, en disant vivement la fin. C'est qu'en nous, il y a la vie de Dieu qui veut jaillir, qui veut s'écouler en nous, et qu'en fait la source est obstruée, elle est pleine de cailloux, de pierres, et donc il s'agit par des choix très quotidiens qui vont choisir plutôt la simplicité que ce qui est complexe, ce qui est étouffant, d'aller laisser cette source en nous, comment dire, s'écouler. Et donc pouvoir inspirer aussi nos actions, nos pensées, nos paroles.
Pourquoi est-ce qu'on manque de simplicité ?
Alors, saint Augustin s'était déjà posé la question. Et saint Augustin avait dit, il le dit dans ses confessions, « Tu étais au plus intime de moi-même. » Moi, c'est une phrase qui me parle beaucoup. « Tu étais au plus intime de moi-même. » C'est-à-dire, tu es présent au plus intime de moi-même, mais moi, je n'y étais pas. Moi, je n'y étais pas parce que j'étais prisonnier de ma sensibilité, de tout ce qui est extérieur à moi. Et finalement, ça devenait plus important que ta présence qui est au plus intime de moi-même et qui ne demande, dans sa discrétion, dans sa délicatesse, à se faire entendre.
Vous évoquiez l'image de l'eau, du cours d'eau, des cailloux, ça revient toujours, le sable sans cesse se remet, il faut toujours...
Alors, je suis jurassien par certains aspects, pas loin de Poligny dans le Jura,
on
donc des sœurs Clarisse,
on se retrouvera.
Et dans le Jura, il y a une montagne en trois plateaux, et en fait, il y a beaucoup de sources, et les sources, elles s'écoulent dans la roche, elles creusent des rivières souterraines, voire même des sortes de cathédrales, il y a ça à Baume-les-Messieurs, c'est pas loin de Poligny, où l'eau est extrêmement limpide, parce que justement elle est filtrée, et cette eau parfois, donc de l'extérieur on ne la voit pas, puisqu'elle est à l'intérieur de la roche, et puis à certains moments elle s'écoule à l'extérieur, puis elle entre à nouveau, et pour moi c'est la plus belle métaphore de la présence de Dieu dans notre vie, c'est-à-dire que le Seigneur est tout le temps présent, comme cette source qui coule. À certains moments, je peux me rendre compte dans son extériorité, quand je vois que le Seigneur, son esprit m'inspire tel regard, tel geste de compassion, tel acte de conversion. Et puis à d'autres moments, le Seigneur travaille, selon une expression qu'on avait entendue à l'époque, où un cycliste qui avait été pris positif au dopage avait dit « j'ai été dopé à l'insu de mon plein gré ». Eh bien, la vie spirituelle avec Dieu, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on lui a dit « vas-y », il agit, on ne s'en rend pas compte, donc c'est à l'insu, mais de notre plein gré, parce qu'on lui a quand même donné carte blanche en nous.
Et on, donc, est dopé, on est dopé par,
on est dopé,
par Dieu.
On est dopé à la grâce, on est dopé à la vie divine. Et donc, ça veut dire que le Seigneur ne demande pas mieux que de venir marquer nos existences, les transformer, mais c'est nous qui souvent, comment dire, sommes extérieurs à nous-mêmes, alors que lui est là et que... Par cette simplicité, par cette capacité un peu à une vie, comment dire, un peu plus dépouillée, un peu plus austère aussi, un peu plus ascétique, c'est-à-dire qui accepte de se retrancher un peu de certains superflus, eh bien, on devient plus unifié avec nous-mêmes. C'est l'expérience que font ceux qui partent marcher longtemps, ceux qui prennent des temps de retraite aussi, où les choses sont plus réunies, sont plus unifiées en eux.
Thank you. Pour parler de ce dépouillement, on pourrait s'arrêter sur un épisode de Saint-François d'Assise, oui, puisque c'est votre saint patron. Et d'ailleurs, cet épisode, vous le racontez dans votre livre La création retrouvée, l'écologie selon Saint-François aux éditions de l'Emmanuel. L'histoire de Saint-François et de son père. Là, on a un épisode de dépouillement.
Ah oui, oui, c'est un épisode très touchant. Et qu'actuellement, l'évêque d'Assise cherche vraiment à remettre en valeur à la suite de la visite du pape François le 4 octobre 2013, où le pape a dit « Bon, j'irai prier sur la tombe de Saint-François et Sainte-Claire, mais avant, je veux rencontrer les pierres vivantes d'Assise, qui sont les pauvres. » Et les pauvres, l'évêque les a réunis dans ce lieu où Saint-François, accusé par son père de dilapider son argent, de devenir un mauvais fils, alors que le père lui demande de lui rendre son bien, François se dépouille de ses vêtements, de son argent, il est nu en place d'Assise et il dit « Désormais, je n'ai plus qu'un seul père » et il se met à réciter la prière du Notre Père et l'évêque vient le recouvrir de sa cape et Saint Bonaventure, un des biographes franciscains, raconte qu'après l'évêque a donné à François une tunique de paysan, c'est-à-dire un peu comme notre habit, c'est-à-dire un seul tenant, quoi, un drap d'un seul tenant. Et François le reçut avec reconnaissance, ça c'est le mot clé de la spiritualité franciscaine, avec gratitude, avec reconnaissance, et il traça dessus une croix avec une craie, afin, dit Bonaventure, de suivre nu le Christ qui s'est fait nu, qui s'est fait pauvre pour nous sur la croix.
On revient à cette idée de simplicité, en
toujours,
fait.
C'est toujours, humidité. Par là où on essaye d'en sortir, elle nous revient par une autre porte.
Alors dans l'encyclique de Laudato si, justement, vous parliez du pape. Il revient sur ce témoignage des franciscains avec cette vie simple et fraternelle qui est, il le dit, c'est un témoignage pour notre époque pour trouver une autre qualité de vie, c'est-à-dire pour apprécier des choses au-delà de la consommation, pour apprécier sa vie en dehors de l'achat, de la consommation. Est-ce que vous avez le sentiment ou même peut-être une expérience de ce qu'est ce témoignage auprès de nos contemporains qui peuvent être étonnés de ce que vous vivez?
Oui.
Oui, ça les déplace.
Oui, alors déjà, il y a une première chose, c'est vraiment un écho à... C'est un peu le refrain de Laudato si, c'est le tout est lié. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté, mes achats compulsifs, de l'autre côté ma vie affective, ensuite il y aurait ma vie... Non, tout est lié. La manière dont je me comporte dans un domaine est significatif d'autres niveaux de relations. Et ça, c'est ce qui est très intéressant dans cette encyclique et qui renvoie à la question de la permaculture, par exemple, qui est une forme de fraternité à l'intérieur de la terre, qui renvoie à la relation entre la terre et le cri des pauvres, par exemple. Ce tout est lié, il renvoie vraiment à une perception de la personne humaine qui n'est pas autosuffisante, qui n'est pas un tout isolé des autres, mais qui est vraiment dans toute sa manière d'être, en relation, elle reçoit, elle donne, elle est dans ce mouvement. Et en fait, c'est le mouvement de la vie de Dieu. Ça, c'est ce qui touchait beaucoup, Saint François. Je pourrais prendre un exemple. Je peux prendre un exemple chez les Clarisses, par exemple. On va aller chez
qui
les Clarisses.
Qui sont dans la même famille. Enfin,
voilà.
Mais pas le même.
Et on va aller chez les Clarisses de Poligny, par exemple, qui, elles, vivent, et comme d'autres monastères de Clarisses que je connais, de manière plus affirmée même que nous. Parce que nous, on est en ville où ça s'est un peu abandonné, de ce que les gens donnent. Mmh. Et c'est étonnant, les sœurs, c'est pas un mouvement à sens unique, les sœurs ne reçoivent pas et puis elles garderaient pour elles. C'est qu'elles reçoivent et quand quelqu'un sonne à leur porte qui est dans le besoin, elles donnent. Et en fait, c'est un mouvement de relation, c'est un mouvement de circularité des choses, à la fois du temps que l'on donne, que l'on reçoit, à la fois des biens de consommation indispensables, et puis des biens spirituels aussi. Et ça, on a ça dans une lettre à tout l'ordre que saint François écrit. Il dit ça à propos de l'Eucharistie, justement, en disant « Regardez, c'est devenu un chant un peu à la mode dans certaines paroisses, regardez l'humilité de Dieu, ne retenez pour vous rien de vous, afin que vous reçoivez tout entier celui, le Christ, le Fils de Dieu, qui s'est donné à vous tout entier. » Et ça dit quelque chose que la vraie pauvreté, c'est pas tant d'avoir un peu de données, enfin d'être un peu dans un scrupule ou dans une comptabilité, même si ça passe par une vie simple. Mais sa vie surtout, ça passe surtout par une vie qui accepte de recevoir et de donner et d'être toujours dans cette dynamique et dans ce mouvement-là.
Est-ce que c'est ça la réconciliation avec soi-même dont on parle ? C'est aussi comprendre cet aspect des choses ?
Oui, alors qui passe dans la vie de François, on voit bien, c'est assez volontariste. C'est au début de sa conversion, on est en 1208. À ce moment-là, François est né en 1182, il va mourir en 1226. Là, il est encore assez volontariste. Il est encore en train de dire, vous allez voir ce que vous allez voir. Il y a encore beaucoup de volonté propre, on pourrait dire. Mais le signe est très beau, c'est-à-dire qu'il va poser cet acte de renoncer pour apprendre à recevoir, et ensuite ça sera toute la dynamique de sa vie, dans la relation aux lépreux, dans la relation aux frères, dans la relation à la création, et dans la relation profonde à la présence de Dieu.
Et peut-être pour terminer, en un mot, se dépouiller pour se départir de ses fautes, c'est le sacrement de réconciliation.
Exactement.
Vous l'associeriez aussi au dépouillement personnel de soi-même ?
Tout à fait, parce que le sacrement de la réconciliation demande une certaine humilité, c'est-à-dire on reste pas sur son piédestal, mais d'ailleurs parfois quand on se met à genoux, c'est un beau signe aussi pour dire que on reconnaît la part de misère qui est en nous et on ne prétend pas s'en sortir tout seul, mais on a suffisamment confiance que le Seigneur peut venir l'habiter si on le laisse venir nous habiter et donc nous rendre capables nous aussi de pardon et de compassion à sa manière.
Merci, frère Éric Bideau. Vous êtes responsable national des Capucins. Merci beaucoup.